me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie, tu es bien sur le Lloydcast. Je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène, comédien. Mais ici, je te présente des personnalités que je trouve remarquables et ou inspirantes. Le Lloydcast est un audio bimensuel publié les jeudis. Abonne-toi sur la plateforme de ton choix pour être notifié à chaque nouvel épisode. Pour me soutenir, n'hésite pas à laisser un avis là où tu l'auras entendu, ça m'aidera beaucoup. Bonne écoute. Salut la compagnie et bienvenue sur cet épisode 15. Aujourd'hui, dans les remarquables, et pour cette rentrée que je te souhaite bonne, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux remarquables. Ah, tu me diras, ils forment tous les deux une entité musicale. Depuis que je les ai découverts dans leur Suisse natale, je suis un de leurs plus grands fans. Et on peut le dire, grâce à mon puissant lobbying, ils ont signé avec un major français, Warner, pour ne pas le citer, et ont sorti leur premier album, qui s'intitule « Comme on respire ». Ils viennent de finir une tournée française au moment où on enregistre cet épisode. Je les aime d'amour et je suis très honoré de les recevoir. Alizé et Xavier du groupe Alioz, bienvenue.
Hello.
Merci.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. On profite de se reposer un peu et d'écrire des nouvelles chansons, donc ça va bien.
Cette tournée française, là, d'été, il y a eu combien de dates en tout, à peu près?
Sur l'été, une quinzaine, je crois.
Une quinzaine, ouais.
Ouais, ça va.
Surtout en France, un peu en Belgique et en Suisse.
D'accord. Et donc moi, j'ai vu les images. Ça, j'ai l'impression que ça s'est vraiment bien passé, qu'il y a eu du monde. Dimanche dernier encore, je sais pas où c'était là, mais il y avait quoi, 10 000 personnes, quelque chose comme ça? C'est énorme.
Oui, c'était à Agen, et il y avait en effet 10 000 personnes.
Waouh.
Alors bon, on n'a pas à chaque fois 10 000 personnes, mais c'est vrai que ça faisait plaisir d'avoir autant de monde. Donc, non, ça se passe bien, c'est super, c'est tellement vivant le live, ça fait tellement du bien.
En plus, vous êtes plutôt un groupe de live, vous?
Bah, je pense, parce que on s'est même trouvé en jouant ensemble, parce qu'au tout départ, quand le premier album autoproduit est sorti en 2009, c'était quand même plus moi qui chantais, et puis Xavier avec moi sur scène, très vite on s'est mis à chanter les deux, et c'est là que le duo est né, donc c'est à travers le live que Alioz a vraiment pris sa vraie forme.
Et alors on va évidemment parler de tout ça, mais il y a deux traditions dans le podcast et c'est pas parce que c'est la rentrée qu'on va déroger à la règle. Je propose à chacun de mes invités ce qu'ils veulent boire. Et évidemment, vu que c'est virtuel puisque l'on est via Skype, vous pouvez me demander à boire ce que vous voulez, je vous le donnerai virtuellement.
Mais moi, je sais ce qu'Alizé va dire déjà, en tout cas.
C'est super frustrant ton truc.
Donc Alizé, qu'est-ce que tu veux?
Bah, comme là j'ai une bonne bronchite carabinée depuis bientôt 3 semaines, je pense qu'un bon whisky pour tuer ces microbes, ce serait parfait. Un petit Lagavulin, double maturation, un truc du genre, ce serait parfait.
D'accord. Xavier?
Et moi je prendrais un petit verre de chardonnay parce que je dois écrire un texte. Je vais écrire un texte sur le chardonnay, donc comme ça me donnera de l'inspiration.
Alors, nous, on s'est rencontrés il y a 4-5 ans. Je crois que vous donniez un concert. C'était le Parc Ella Fitzgerald, c'est ça?
Exactement. Et c'est un événement qui a tous les étés à Genève qui s'appelle Musique en été. Où dans ce parc de la Grange, qui est très beau, il y a une scène qui est installée à l'année, la scène Ella Fitzgerald. Et ils font des concerts gratuits tout l'été, les mercredis et les vendredis, je crois. Et pour nous, c'était une des premières grandes scènes à Genève, chez nous. Donc on avait mis le paquet, on avait carrément des amis qui étaient venus faire les choristes, on avait des musiciens additionnels, des petites surprises. Donc, et tout ça a été d'ailleurs filmé, et ça nous a permis de faire un DVD de ce concert qui marquait la fin de la tournée 2012-2013, donc la tournée du deuxième album autoproduit.
Alors, moi, quand je vous ai découvert, d'ailleurs, au passage, je salue Marie. Alors, c'est pas du tout une incantation religieuse, hein, mais c'est juste mon amie Marie, donc je sais qu'il écoute aussi ces podcasts, qui m'avait dit, tiens, tu viens, il y a un groupe suisse, je suis sûr que ça peut être vachement sympa. Alors moi, qui était uniquement bloqué sur Depeche Mode, David Bowie ou Bachung, je me dis, ah, d'accord, un groupe suisse, qu'est-ce que ça va être? Et je me souviens très 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 bien des toutes premières notes que j'ai entendues, d'Alizé qui rentre pieds nus, je crois, et qui se met derrière le piano. Et là, tout de suite, je suis tombé amoureux de la musique, j'entends, et de la voix, et de ce que vous étiez ensuite. Et j'ai eu une vraie claque. Et à la fin du concert, j'ai eu la chance de pouvoir vous rencontrer. Et on s'est revus ensuite plusieurs fois sur Paris, jusqu'à ce que, bah voilà, on puisse se fréquenter et que vous ayez même gentiment accepté d'écrire et de faire la chanson d'une de mes pièces qui s'appelle Les Pieds dans le Vide. Et moi, ça m'avait énormément touché.
Eh ben, écoute, merci. Nous aussi, on avait été très touchés par tes témoignages parce que, ben, forcément, ta belle plume aidant, tu nous avais écrit des messages adorables aussi suite au concert, donc ben, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. Et puis c'était une période où on avait besoin d'être boosté, on envisageait justement la suite, on réfléchissait à la France, donc voilà, tout ça participe bah, à l'avancée d'un projet.
Alors, votre rencontre, vous, elle s'est faite en 2006, si j'ai bien suivi.
Alors, c'est même plus vieux que ça. En fait, ça date de 2004.
D'accord. Bah, c'est vraiment, c'est vrai que c'est. Merci d'avoir précisé que c'était beaucoup plus vieux que ça.
C'est très vieux quand même.
Ah, ça ferme. C'était fin 2004, exactement. On s'est rencontré dans des ateliers pour auteurs-compositeurs, qui étaient d'ailleurs avec Claude Lemal, un auteur parisien.
Qui a écrit pour beaucoup, beaucoup de vos chanteurs français, merveilleux.
Et donc au départ, c'était ce que vous vouliez faire, chacun dans votre coin, Élisée et Xavier, de devenir auteur, compositeur, chanteur, c'était dans les tubes ou il y avait autre chose? Parce que je crois que Xavier aussi, toi, t'as d'autres diplômes à côté de tout ça.
Ouais, alors, non, vraiment, si j'avais pu faire quelque chose à cette époque-là, 2004, c'était vraiment auteur-compositeur. Alors, chanteur, pas du tout. Mais en fait, je suis arrivé au bout de ce qu'on appelle la maturité ici, c'est l'équivalent du bac en France. Et puis, je me disais, bah, en fait, quoi faire? Et je me disais, s'il y avait une école pour auteur-compositeur, comme il y avait une fac de médecine ou d'avocat ou comme ça, ce serait cool. Et puis j'étais tombé sur ces ateliers et c'est comme ça que j'ai rencontré Alizé. Donc après, forcément, d'ici à en faire un métier, il y a du boulot et il y a du temps, et donc j'ai continué ou repris des études de lettres et puis eu passablement de petits jobs à côté de la musique jusqu'à ce que qu'on puisse en vivre vraiment.
Et puis moi, j'ai toujours été très très attirée par la scène depuis toute petite. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cirque. Enfin voilà, j'avais toujours envie de monter sur scène. Et en fait, j'ai toujours chanté en parallèle, mais jamais je me suis dit je vais devenir chanteuse et je vais en faire mon métier. Et puis quand on s'est rencontrés dans ces ateliers-là, j'étais quand même encore très jeune, j'avais tout juste 16 ans.
Et lui, il en avait déjà 35.
Voilà, c'est ça.
Au moins.
Et je commençais un petit peu à composer au piano et à réfléchir un peu à l'écriture, mais comme ça, très naïvement. Et c'est en rencontrant des auteurs, compositeurs, interprètes, comme Xavier et d'autres qui étaient dans ces ateliers, plus âgés et plus expérimentés que moi, où je me suis dit, ben tiens, moi aussi j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie d'essayer d'écrire des chansons pour de vrai, mais sans jamais envisager en faire un métier. Et puis Xavier comme moi, on a commencé nos études universitaires, donc moi c'était en sociologie, Xavier c'était en littérature et histoire. Et quand on a terminé les deux nos cursus à peu près en même temps, toi c'était le master et moi le bachelor, bah Alioz avait pris de plus en plus de place et ça commençait à devenir concret, on commençait à gagner un peu des sous avec ça, donc on a décidé de se structurer et de voilà monter notre propre petit label pour que tout ça devienne concret.
Et justement, Alioz, le nom vient d'où alors? Enfin, Alizée. Moi, je sais, mais bon, tu peux le dire.
Alors, tu veux la légende de...
Je sais pas, ouais, du storytelling, faites-moi rêver.
Alors, la storytelling, c'est que, et on invite tous les Français qui nous écoutent à venir voir si c'est vrai, il y aurait une plante qui pousserait dans les contrées lointaines, au fin fond de la Suisse, qui s'appelle l'alioz, et que quand on la consomme, ça rendrait totalement accro. Donc ça c'est la légende qui a commencé un peu à se propager. Après la version moins glamour, c'est qu'au tout départ, en 2009, quand on a fait le premier album, en fait je chantais beaucoup plus que Xavier qui chantait presque pas. Donc c'était un peu plus mon projet et comme je m'appelle Alizée Oswald, Ali Oz, et c'était une amie qui avait pensé à ce nom et c'est resté. Et comme le nom veut tout et rien dire, ben voilà, il a fait sa place avec nous.
Ouais, c'est joli, c'est joli. Et donc à partir du moment où Alioz après s'est créé, vous avez fait deux albums autoproduits, c'est ça?
On a fait un premier disque en 2009, comme Alizée vient de le dire.
Qui s'appelle Alioz d'ailleurs.
Qui s'appelle Alioz, un album éponyme, qui était assez sobre en fait, assez guitare, piano. Voir, c'était un peu comme une je dirais pas une maquette, mais au début, c'est vrai que c'était...
En fait, si, pour rappeler le contexte, à ce moment-là, je venais de faire un stage d'écriture pour auteur-compositeur, avec plein de gens qui m'encourageaient, qui me disaient « Ah, mais c'est super, tes chansons !» Xavier n'était pas dans ce stage-là, d'ailleurs. et m'ont encouragé à enregistrer. Donc moi, très naïvement, j'avais des cours de piano avec Monsef Genoux, qui est un pianiste de jazz assez renommé en Suisse. Et lui m'a dit « Ah, mais moi, je peux te présenter quelqu'un qui a un studio ». Et en fait, de fil en aiguille, en deux week-ends, on a enregistré un album, quoi. Donc il est frais, hyper naïf, très inégal. Mais en même temps, il a une espèce de pureté que beaucoup de gens relèvent encore aujourd'hui. Alors moi, je suis très gênée quand je l'écoute. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est comme une... Peut-être que cet album en France, il n'aurait pas existé. Mais en Suisse, c'est possible parce que c'est un tout petit territoire. Et voilà, j'ai fait les choses avec beaucoup de naïveté. Et il y a un titre qui est passé en radio en Suisse. Et voilà, ça a lancé la machine. Donc c'est un peu, j'ai une histoire d'amour, haine un peu avec cet album, parce que je suis pas toujours à l'aise avec certains titres, mais en même temps, ben, s'il y avait une naïveté et une envie de notre côté qui était tellement forte.
Et c'est ça qui a permis que ça se développe, en fait. C'est après la sortie de cet album qu'on a eu, 150 concerts sans en chercher un seul, donc il y a eu une espèce d'emballement. Qui a permis que l'aventure commence.
Et même si de mémoire, il y a des morceaux de cet album que vous avez repris ensuite.
Oui, il y a des titres comme PS, voilà, qui nous ont suivis vraiment depuis. Et pour moi, il y a vraiment des pépites aussi sur cet album. Une chanson comme Il pleut, je trouve que c'est une chanson qui est magnifique. Et je le dis parce que c'est Alizé qui l'a écrite toute seule. Non. C'est un album, c'est une photographie d'un instant. Donc, il ne faut jamais renier un album, on assume complètement. Simplement, bah, tu es à 18 ans, pas le même qu'à 28 ou qu'à 38.
Bah, c'est ça.
Comment on fait pour autoproduire un album, en tout cas en Suisse ? Parce que j'ai quelques personnes qui ont essayé aussi en France et ça coûte excessivement cher. Après, je sais qu'il y a aussi en Suisse, pour connaître un groupe... qui s'appelait les Jetlakes d'ailleurs, qui ont changé de nom depuis. Mais par exemple, eux, je sais qu'ils ont eu des comme des mécènes qui les ont aidés à produire leur premier album. Est-ce que c'est des choses qui sont fréquentes en Suisse ?
Alors nous, le premier album, en fait, il a pas coûté excessivement cher, mais par contre, comme il a marché un peu, il nous a permis de pouvoir financer le suivant, qui est sorti en 2012, et là,
qui s'appelle Le Vent a tourné.
Pour le coup, ça s'appelle Le Vent a tourné, et là, qui a plus, là voilà, c'est plus produit, et donc effectivement, il a coûté plus cher. Et là, on a eu aussi une aide, effectivement, d'une fondation qui s'appelle la Fondation pour la chanson et les musiques actuelles, qui nous a permis de nous soutenir dans cette démarche. Parce qu'effectivement, c'était un gros montant. Enfin, un montant que ça nous coûte.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de recettes, et il y a surtout très peu de labels en Suisse pour produire des albums. C'est souvent les artistes qui doivent trouver leur solution. Donc il y en a qui montent des associations et qui ont plein d'amis et plein de membres, et du coup ils arrivent à trouver de l'argent comme ça. D'autres qui bossent à côté, qui ont un bon salaire et qui investissent là-dedans comme ça. Il n'y a pas tellement de... Le marché s'est pas mal développé ces cinq dernières années. Mais c'est un tout tout petit marché, en tout cas la Suisse francophone, et il y a très très peu de structures. C'est pour ça que nous, en 2012, une fois que ça s'était concrétisé dans nos têtes et qu'on voulait vraiment en faire un métier, ben, on a monté notre propre structure, et c'est à travers cette structure qu'on a cherché des fonds et qu'on a pu aussi remettre en jeu l'argent qui avait été gagné sur l'album précédent. Et voilà, on a monté notre petite entreprise.
Et c'est ça qui est assez incroyable, parce que je me souviens au début qu'effectivement, les newsletters, c'est vous qui les faisiez. Alors, vous continuez de gérer un maximum de choses sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est vous qui avez encore la main dessus. Mais c'est vrai qu'on sentait le côté très artisanal, et c'est absolument pas négatif hein, quand je dis ça, de votre démarche. Comment vous en êtes arrivé ensuite à arriver en France, parce que c'était le but de se servir de ces deux albums autoproduits pour pouvoir les présenter à des majors français, c'était ça?
Non, pas du tout en fait. On n'a jamais eu vraiment de but, et c'est ça qui au début nous a permis d'avancer, je pense. Je pense que les cinq premières années, on les a vécues en essayant de suivre une vague qui s'était un petit peu emballée en Suisse, et sans jamais calculer. Et quand on a commencé à calculer un peu, parce qu'à un bout d'un moment, quand on décide d'en vivre vraiment, bah, on est obligé un minimum, bah, c'est là où ça devient plus compliqué, forcément. Après, ça n'a jamais été un but en soi, on n'a jamais couru les labels. C'est une rencontre, en fait, avec la personne qui est maintenant notre manager. Une rencontre presque hasardeuse qui a permis une autre rencontre, qui a permis la signature avec Warner, Live Nation et les partenaires qu'on a aujourd'hui.
Et beaucoup de lobbying de ma part, hein, t'as oublié de le dire aussi.
Et surtout, évidemment, j'ai oublié de mentionner.
C'est pour ça qu'on n'arrive pas tellement à répondre à cette question sans aller. Non, mais je pense qu'il y a aussi un timing, ce qui est assez joli dans notre aventure, parce que finalement, elle est assez longue. Hein, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille dur. C'est que tout est arrivé au bon moment, au bon endroit. Et je crois que là, la signature française, on est arrivé au moment où on était prêt. Ça faisait déjà un moment qu'on avait toutes ces casquettes, qu'on avait une bonne maîtrise de comment ça marchait, même si évidemment, la France étant un autre marché, même si j'aime pas ce mot, on a dû s'adapter à plein de choses. Mais on avait une bonne connaissance générale de tout ce qui entoure la musique, parce que faire un album et être sur scène, c'est pas juste prendre une guitare au coin du feu, c'est 12 000 métiers réunis. Donc ça, c'était plutôt le côté chouette. Et en même temps, on était un peu arrivé aussi au plafond de verre de ce qu'on était capable de faire par nous-mêmes, avec nos moyens, avec nos bouts de ficelle, comme tu disais, le côté très artisanal, ça nous a permis des choses géniales, parce que quand t'es limité, des fois, tu repousses les limites et tu fais des choses parfois mieux que quand t'as pas de limites. Mais à l'inverse, le fait d'avoir maintenant tout un entourage, ça permet de se concentrer sur l'artistique et je pense que c'était un step très important.
Et avant cette signature chez Warner, vous avez fait 100, 150 concerts avant. Et de tête, je crois que vous avez fait même des concerts très 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 loin de votre Suisse natale.
Ouais, bah en fait 150 c'était les deux trois premières années. C'est vrai qu'avant Warner, on avait déjà fait 300 ou 350 je pense. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de voyager à l'étranger, pas mal, souvent dans le cadre de la francophonie en fait. Donc c'est le fait d'écrire en français qui nous a souvent paradoxalement ouvert les portes de l'étranger. Et donc on a été voyager, tourner en Chine, on a tourné au Népal, en Arménie, en Géorgie, en Amérique du Sud, on a fait l'Argentine, le Paraguay.
Et récemment, le Japon.
Le Japon.
Washington.
L'Amérique, enfin, du Nord, donc USA, Canada aussi. Puis en Europe un peu, Angleterre, Belgique. On a pas mal voyagé.
Ah, c'est gigantesque. Et justement, il n'y a pas une histoire comme ça où vous faisiez des reprises de certaines chansons locales, en tout cas de là où vous alliez, en Roumanie par exemple, je crois.
Ce qu'on faisait en tout cas au début, c'est qu'on adaptait en tout cas une de nos chansons dans la langue du pays où on allait. Donc effectivement, il y a une version de Je ne suis pas folle en chinois, avec un refrain chinois, il y en a une en refrain espagnol, etc.
Par contre, par rapport à la Roumanie, on a participé à un festival international de musique. Et ils nous demandaient, en plus des deux chansons qu'on jouait de notre composition, de reprendre un standard de Georges Grigoriou, qui était le compositeur mis à l'honneur de ce concours. Donc on a fait une reprise à notre sauce de cette chanson, donc toute douce, avec deux voix, etc., alors que d'habitude elle avait un côté très grandiloquent et tout ça. Et ça a fait mouche, et ça nous a permis de gagner ce concours, et le prix c'était une BMW. Donc, on a quand même réussi à gagner une BMW
en chantant Amourgoul,
exactement, qui veut dire crépuscule.
D'accord. Et donc après, en 2007, vous avez sorti un premier EP, c'est ça qu'on dit, en France, avec Warner.
Voilà, c'était un 5 titres qui était censé être... évidemment, c'était déjà ouvert au public parce qu'ils pouvaient l'acheter numériquement, mais il n'y a pas eu de version physique. Et c'était surtout là pour faire un premier contact avec la France, les médias français, pour que au moment où l'album allait sortir, qu'on soit pas tout neuf, et puis que voilà, que ce soit déjà un peu prêt.
Qu'est-ce que ça fait justement, alors, après, de signer avec une major comme Warner, et derrière après pour la tournée, un truc aussi énorme que Live Nation. Live Nation, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est des méga tourneurs. D'énormes groupes, je crois ils ont même eu U2 entre autres.
Oui. Ah oui, bah tous les plus gros trucs en fait mondiaux sont un peu partagés entre Warner et leur Warner, entre Live Nation et leur concurrent direct AEG. Oui, après en fait de nouveau ça s'est fait toutes les signatures, elles se sont faites assez naturellement. Et donc on s'est pas posé 1000 questions. C'est vrai que nous on avait affaire à des petites équipes, hein. C'est des énormes structures, mais quand même nous on a affaire à des équipes réduites autour de nous et qu'on a bien senti et donc on y est allé. On ne regrette pas en fait.
Non, puis c'est agréable de se sentir entouré Bah, il y a les pour et les contre. Les pour, c'est qu'on n'est plus tout seul pour mener le bateau, donc c'est rassurant, on est boosté, on est encouragé, on est brusqué parfois, et ça fait du bien, parce que des fois, on tourne en rond, on est tout seul dans notre cocon. Mais à l'inverse, ben, ça met beaucoup plus de pression, parce qu'il y a beaucoup plus de monde à bord, donc beaucoup plus de gens à décevoir si ça va pas. Donc il y a les pour et les contre. Mais c'était une expérience, en tout cas, qu'on avait envie de vivre. Et c'est quand même un rêve de gamin de signer dans une... Enfin, moi, quand je regardais un peu leur catalogue, j'étais une fan de Coldplay. Et Coldplay, c'est Warner, c'est Live Nation. C'est quand même fou de me dire, ah tiens, c'est mes collègues. Donc voilà, c'est génial qu'on ait pu vivre tout ça. C'est vraiment
et
fou.
Moi, je vous connais bien et on avait pu en discuter. Ce qui est assez... Alors, je ne sais pas si c'est étonnant, mais j'ai l'impression que vous avez gardé quand même une majeure partie de votre... identité musicale et artiste, enfin en tout cas le côté artistique, c'est vous. Ils n'ont pas fait de vous quelqu'un d'autre en fait.
Non, bah ils sont là pour épauler. Tu voulais répondre peut-être.
Non, vas-y.
En fait, c'est ça. Souvent, les gens ils se disent que c'est une grosse machine et qu'on va se faire manger et tout ça parce qu'on, je sais pas pourquoi, dans l'inconscient collectif, on imagine ça. Alors qu'en fait, on est une équipe. Autour d'une table, et puis nous, on dit ce qu'on veut, ils essayent de nous aider à réaliser nos idées, ils essayent de nous donner les moyens de le faire, enfin, ça fonctionne vraiment comme une équipe. Après, nous tous, on est tous tributaires d'une époque où les gens, voilà, ils streament plus qu'ils achètent des albums, etc. Donc tout ça, ça joue sur la façon de faire la musique et de présenter un projet. Donc après, c'est toujours des paris. Mais on fonctionne en équipe. Donc...
Après, je pense que ça dépend des projets aussi, hein. Je pense qu'il y a, des artistes qui signent et qui sont transformés ou qui sont peut-être pas assez assez sûrs de la direction dans laquelle ils veulent aller ou qui sont trop frais ou manipulables ou manipulés, ça j'en suis sûr. Nous c'est pas notre cas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que si on avait voulu ou si quelqu'un avait voulu nous changer, ça c'était perdu d'avance. Je pense que ce qui fait que les gens apprécient peut-être ce qu'on fait, c'est aussi lié à une certaine simplicité, une certaine authenticité, et donc si on essaie de faire de nous des personnages, à mon sens, il y a peu de chances que ça avance.
Non, puis même nous, vis-à-vis de nos équipes, pour nous c'était important de bien rencontrer les gens avec qui on travaille, il y a quand même un lien humain. Alors parfois on paraît un peu naïf, mais moi je crois beaucoup en ça. Ma chef de projet, j'aime passer du temps avec elle, j'aime bien la connaître, j'ai pas juste envie d'avoir quelqu'un au bout d'un mail et voilà. Moi je crois beaucoup à l'aspect humain, mais en attendant c'est ça qui nous a porté, même avec notre rencontre avec notre directeur artistique, ça a joué certainement.
À chaque fois que je reçois quelqu'un qui fait de la musique ici, ou en tout cas qui chante, je lui demande comment il travaille sa voix. Alors on va voir si vous allez me répondre pareil que les autres.
Je pense pas, mais...
Bah nous c'est un peu, on est des très très
vous répondez élèves, pareil que les autres travail. En fait.
Ah ouais, voilà. Bon bah ça va.
Tant mieux.
Parce qu'on en croise beaucoup quand même qui s'échauffent, ce qui est peut-être sûrement une bonne chose d'ailleurs, mais, ou qui font attention. On est tous des rebelles alors.
On a l'avantage d'écrire nos propres chansons. Donc déjà, on essaie de les écrire dans des tessitures qu'on maîtrise bien. Comme ça, c'est des chansons de flemmards, c'est super. Non, je rigole, mais.
Non, parce que je pense qu'il y en a une des dernières que vous avez faites, elle est assez haute là. Le dernier single qui était sorti, elle est.
Ah oui,
pour moi, c'est toujours. Mais non, moi, tout le répertoire est en général assez haut.
Mais moi, j'ai constaté, on va dire, trois choses. La première, c'est que moins je me préoccupe de ma voix, mieux je me porte. Si j'ai ce truc de ah, je vais prendre du gingembre, nanana, je vais être malade tout le temps. Alors que là, aujourd'hui, j'ai une bronchite, donc c'est un mauvais exemple, mais j'ai jamais été malade sur scène à part le week-end dernier en 10 ans. Quand même, moi j'ai l'impression que le fait de chanter beaucoup, ça, on apprend, on sent son corps et on sent quand ça tire, quand ça tire pas, et je pense qu'on progresse aussi avec l'expérience. Moi j'ai l'impression d'être une bien meilleure chanteuse aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Et Xavier aussi, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'aisance. Mm-hmm. Et puis quand même, Maxime Le Forestier lui-même m'a dit un jour, ne prends pas de cours de chant. Parce que justement pour lui, il trouve que j'ai un certain naturel dans ma façon de chanter et une maîtrise qui m'est propre, et il pense que justement ça pourrait me transformer. Donc je me dis, venant de lui, j'ai confiance. Surtout que après toutes ces années, lui, sa voix, elle a presque pas bougé, et c'est un chanteur incroyable.
Et toi, Xavier, t'es multi-instrumentiste à la base. Je crois que tu sais jouer de la batterie, de la guitare, de la basse, du hang aussi. Tu fais cet instrument dont on a l'impression qu'il est sorti du fin fond du Népal, alors qu'il est suisse.
Bah effectivement, en fait, je joue un petit peu de beaucoup de choses. Est-ce que je joue très bien de quelque chose, je sais pas, mais en tout cas un peu bien de beaucoup de choses. Non, j'ai commencé avec le violoncelle, en fait. Avant 4 ans, j'ai fait une dizaine d'années de violoncelle, et ensuite effectivement j'ai troqué le violoncelle pour la batterie, changement radical. Et c'est vrai que toutes mes premières scènes, à part les auditions de violoncelle et autres, c'était derrière une batterie, donc en fond de scène. J'aimais bien ça, pas trop devant, les groupes de rock, etc. Et puis la guitare qui arrivait un peu au milieu là, mais alors complètement en autodidacte, j'ai toujours appris de mon côté, mais j'ai toujours aimé toucher un petit peu à tout.
Dans le Lloydcast, la deuxième tradition, c'est une petite souris, et cette petite souris elle vient toujours voir comment vous travaillez, etc., et savoir. C'est simplement pour savoir quels sont vos rituels, est-ce que vous en avez d'une part, et c'est quoi une journée de travail chez Alioz quand il décide de travailler sur une chanson. Qui fait quoi? Est-ce que vous vous passez le relais?
Bonne question.
Les derniers exemples, ça va être déjà le fait de s'isoler. C'est vrai que dans le petit appart à Paris, ou même ici à Genève, on se laisse submerger par les montagnes de mails et les choses à gérer, un peu les amis, les neveux à voir et compagnie. Donc c'est un peu difficile. Donc quand même, moi j'ai l'impression que le fait de partir, Xavier a sa grand-mère a un chalet de famille isolé sur une montagne avec des arbres tout autour, et ça c'est vraiment un cadre idyllique. Et ce qui est super, c'est que c'est un tout petit chalet, et qu'à côté il y a encore un plus petit chalet. Et du coup, ça nous permet de faire des sessions aussi séparées. Donc parfois, Xavier reste dans un des deux chalets et moi, je vais avec mon piano dans l'autre. Et là, il y a de tout. Des fois, il me donne un texte que je vais mettre en musique dans le petit chalet, ou l'inverse. Mais la plupart du temps, on se retrouve les deux bien confort là-haut. Et on, voilà, on
c'est vrai qu'on n'a pas de... On a pas
de recettes.
De recettes, parce qu'on ne travaille jamais de la même manière. Au tout début, on écrivait moins ensemble, puis alors on a commencé à écrire de plus en plus ensemble, et je pense que le sommet, c'est le dernier album, donc Comme on respire, où là alors quasi la totalité de l'album on l'a fait ensemble, texte et musique. Et puis là, pour les premières sessions qu'on a commencé pour préparer l'album qui va venir là, le prochain, on est revenu un petit peu plus à faire des textes l'un, musique l'autre, et puis on se mélange aussi, mais un peu moins systématiquement que le dernier.
Ouais, c'est vrai.
Alors après, ouais, il y a tous les cas de figure. Comme on écrit les deux textes et les deux musiques.
Alors, deux questions. Qu'est-ce qui vous inspire et quelles sont vos inspirations?
Toujours une question difficile, ça. De façon générale, c'est quand même tout ce qui nous entoure. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'observation. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire des études de sociologie et tout ça. Je suis fascinée par les humains et comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Donc, je pense que ça, c'est ce qui m'inspire le plus. Et après, apparemment avec beaucoup de pudeur, parce que les gens relèvent souvent ça chez nous, on met des petits bouts de nous là au milieu. Donc, souvent, les chansons, elles sont pas à 100% autobiographiques, mais il y a des petits morceaux de nous. Je pense à la chanson, par exemple, PS, j'ai pas eu un père en prison, mais j'ai eu un père assez absent, ou voilà, des choses comme ça où on met des petits bouts de nous là au milieu. Et ça amuse beaucoup les gens d'essayer de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai.
On sait comment, justement, qu'on a une bonne chanson?
Quand on tripe vraiment dessus à la fin. Parce que quand même, des fois, t'es content. Mais il y a un petit truc qui te chagrine, non?
Ah, moi j'ai trippé déjà comme un fou pendant 2 jours sur des trucs qui sont des bouses infinies.
Oui, mais c'était le chardonnay, ça.
Voilà, peut-être, ouais.
Mais là, par exemple, récemment, on vient d'en faire 5, et on sait que sur les 5, il y en a une où l'un comme l'autre, sans vraiment pouvoir mettre de mots dessus, on pense qu'on ne s'est pas loupé. Je ne sais pas comment dire. En fait, c'est indescriptible. Je crois que c'est quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi.
Mais il y a toujours les chansons qu'on est extrêmement content d'avoir faites, mais qu'on se dit, elle va pas toucher grand monde, ou alors ça va être une chanson qu'on est un peu confidentielle. Puis il y a d'autres chansons où il y a une évidence,
voilà,
peut-être plus Alors là, on est plus en mode, je sais pas, single ou des chansons qui pourraient mieux marcher ou être plus diffusées à grande échelle. Donc il y a toujours ces deux aspects. Est-ce qu'on parle d'une chanson réussie parce qu'elle va toucher un max de monde et que ça va faire un single, ou est-ce que c'est une chanson réussie parce que ça peut être un standard, ou en tout cas une vraie belle chanson.
En tout cas, pour moi, c'est ta notion d'évidence là dont tu parles qui joue, que ce soit l'une ou l'autre des deux solutions. Mm-hmm. Si j'ai le sentiment qu'il y a une évidence dans la chanson, j'ai hâte de la sortir et de la faire écouter.
Quelles sont les grandes inspirations musicales chez vous en deux, trois exemples
De mon côté, elles sont quand même assez anglophones. Toute l'ambiguïté, c'est que j'écoute assez peu de musique francophone, même si avec les années, je m'y suis mise un peu plus. Mais c'est vrai que moi, j'adore toutes les musiques très planantes, très atmosphériques, un peu cinématographiques. J'essaie toujours d'aller dénicher les petits groupes anglais à droite à gauche, donc je suis vraiment là-dedans. Et Xavier, il a quand même une culture musicale à la base plus francophone que moi.
Ouais, mais c'est tellement mélangé en fait. Chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds un truc un peu, des fois un peu au bol, ou un peu tellement j'ai d'inspiration, parce qu'il faut bien répondre. Mais c'est vrai que j'étais bercé dans le classique, j'ai eu une période hip-hop, j'ai eu une période où j'ai beaucoup écouté de rock des années 70. Une période reggae et tout ça, ça a forgé ce que je suis, et même dans ce qui est francophone. Oui, alors il y a tout ce qui est un peu plus ce qu'on appelle variété, un peu plus Jacques Goldman ou Michel Berger, et puis les Souchon, les M,
Cabrel,
tellement de choses.
Xavier, j'aime tellement quand tu dis 70. Ça veut dire que tu te sens vraiment à l'aise.
Mais c'est pour ça en général, mais comme là on est tranquillement chez nous à
on revient
de temps en temps. Est-ce que c'est dur le milieu de la musique alors?
Honnêtement, oui. C'est très difficile. C'est difficile parce que il y a un aspect magnifique, super excitant. Quand un projet progresse, ça nous fait rêver, ça fait rêver les gens, tout ça c'est magnifique. Mais c'est quand même la jungle, quoi. Et puis, c'est une période, en tout cas en ce moment, il y a même des articles qui sortent là-dessus, particulièrement difficile pour notre style musical.
Vous aviez partagé quelques...
Voilà, à l'ère du streaming et de cette vague urbaine magnifique, hein. Moi, je suis hyper pour, mais ça prend beaucoup, beaucoup de place. Les espaces de diffusion pour des artistes comme nous sont de plus en plus petits. On donne de moins en moins la chance à des artistes qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui ne sont pas passés par des télé-réalités et compagnie. Donc c'est quand même, t'as très peu de temps pour faire ta place. Donc,
et c'est plus dur de développer des projets à long terme, je pense.
C'est ça. C'est d'avoir l'album numéro 2, ce sera une grosse réussite pour nous. C'est des étapes, mais c'est pas évident. C'est un marché compliqué.
De toute façon, le plus dur est de durer, et le plus difficile, visiblement, en ayant discuté avec vous ou avec d'autres copains qui font des chansons, de la musique, etc., c'est le deuxième album.
C'est ça, et puis même juste
comme nous, au fond, c'est notre quatrième, donc ça va.
Non, mais ce qui est difficile, c'est aussi d'exister. Bien sûr, on passe de, par rapport au public français, on va dire, ou même la France en général, personne ne nous connaissait encore il y a un an. Et là, on a été nommé aux Victoires de la Musique. C'est un step énorme, d'autant plus pour un artiste suisse. Il n'y en a pas eu depuis 23 ans, où c'était Stéphane Escher, je crois, le dernier. Donc la marche a été énorme. Mais si tu fais un micro-trottoir n'importe où en France, les gens ne connaissent pas. Donc,
si, ils disent que c'est
très
une espèce de plante au fin fond de la Suisse.
ils ont vu ça sur Wikipédia, peut-être. Mais, c'est un long parcours. C'est une campagne... Il faudrait parcourir, sillonner la France et faire un max de concerts, et c'est comme ça que les gens nous découvrent.
Ouais, en même temps, on vient de là, en fait, donc ça ne nous fait pas peur. Donc,
oui, mais c'est long. Ça a mis peut-être 10 ans en Suisse, donc je ne suis pas sûre qu'on ait 10 ans forcément pour la France. Puis c'est surtout comment les gens consomment la musique aujourd'hui. Ils n'ont peut-être même pas la patience d'attendre 10 ans. Donc c'est quand même une période un peu compliquée, je trouve. Mais en même temps, il y a toujours eu des périodes compliquées, il y a toujours eu des artistes, il faut juste s'accrocher, c'est tout.
Ce deuxième album, on pourra l'imaginer pourquoi? Pour 2019, 2020?
Alors là, c'est difficile à dire. Je dirais...
2019 quand même.
Ce serait bien en 2019.
Fin 2019, ce serait top. Ça, c'est un peu l'objectif dans nos têtes. Mais ça va dépendre des chansons, il faut qu'il y ait des bonnes chansons et tout ça.
Et quand on envisage un nouvel album comme ça, ça c'est pour moi encore, mais est-ce que vous vous dites, tiens, on va faire un album concept où la thématique, ça va être ça, le son, ça va être ça, et est-ce qu'à partir de là, vous choisissez le panel des personnes que vous avez parmi le panel de personnes que vous avez en face de vous, celles qui vont être le plus à même d'être plus proche de votre idée initiale?
Alors bon, ça c'est peut-être un manquement de notre part, mais on n'a jamais été très concept. C'est sûr qu'en ce moment, on se rend compte aussi qu'en France, il y a beaucoup d'artistes qui ont tout un concept visuel et c'est très très fort et c'est ce qui fait aussi que ça prend. Et je suis très admirative de ces artistes-là. Mais en même temps, c'est un peu l'antithèse de ma vision de la musique et de comment j'ai envie d'être sur scène. J'ai pas envie d'être un personnage sur scène, j'ai envie d'être le plus proche de moi et du coup le plus proche des gens. Donc il y a toute une ambiguïté là autour. Donc moi je dirais que nous, en tout cas, la façon dont on aborde le prochain album, elle est plus artistique dans le sens, bon, nous, on a ces chansons-là qui sont sorties. Où est-ce qu'on a envie de les emmener, comment on a envie qu'elles sonnent, et à ce moment-là, qui c'est qu'on va chercher pour les faire sonner là où on a envie. Mais on n'est pas dans ce truc genre, ah bon, on va jouer sur le concept de on est plutôt ci.
C'est vrai qu'on a des démarches vraiment de songwriter pour ça. On écrit des chansons, on les écrit guitare-voix, et ensuite, effectivement, on s'entoure en fonction des envies qu'on a, de comment on veut le faire sonner, etc. Après, ça dépend comment on prend le mot concept. Alors, quand on dit album concept, c'est déjà un truc qui aujourd'hui... Waouh, là on est au streaming, déjà album, le fait de faire... Nous, on attache cette importance à faire 10, 12, 14 titres avec une cohérence, avec un début, une fin, etc. Mais je pense qu'on est complètement dépassé déjà. Aujourd'hui, les gens consomment titre par titre et moins une espèce d'unité. C'est plus un tableau complet, quoi. C'est des petites esquisses qui sont plus isolées.
C'est vrai.
Ouais, c'est absolument passionnant. Je pourrais vous faire parler comme ça pendant des heures, mais je vais écourter un peu. Pourquoi ne pas chanter en anglais justement aussi? On en parlait tout à l'heure.
Parce que depuis le début, on parle de naturel et d'évidence, et ce serait anti ces deux choses-là. Ni l'un ni l'autre, on est anglophone, même si moi je me débrouille pas mal. Et puis il y a ce truc quand même. Pourquoi moi j'aime tellement la scène? Parce que le moment où je chante et je m'adresse aux gens, je peux regarder dans les yeux, précisément, hein, parce qu'on voit souvent le public, ou en tout cas les premiers rangs, je peux regarder des visages que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et leur raconter un truc, et ils vont pas baisser le regard. C'est quand même un privilège énorme. Et je me sentirais bien comédienne de le faire en anglais, qui est pas du tout ma langue d'expression. Enfin, si je m'énerve, je m'énerve en français. Si j'ai envie de dire à quelqu'un que je l'aime, je vais pas lui dire « I love you », ça a pas de sens. Donc, dans cette envie d'hyper-franchise sur scène, ça n'aurait pas de sens. Même si, honnêtement, musicalement, je suis plus sensible à la langue anglaise, que je trouve plus musicale et plus directe aussi pour l'écriture.
En même temps, le challenge est d'autant plus intéressant à relever en France. Je pense que c'est... Enfin, après, je sais pas, je suis pas anglophone, mais je pense que c'est plus difficile d'écrire des textes en français que des textes en anglais. Après, on a rien contre l'anglais en soi. Hein. C'est arrivé, Alizée a déjà fait des duos en anglais sur d'autres albums avec d'autres artistes. On a même écrit, ça c'est presque un scoop, on a même écrit une chanson en anglais tous les deux. Va savoir pourquoi, on était à Berlin.
Ça sonnait bien en anglais.
On a décidé de l'appeler Heroes et on l'a passé à un petit jeune qui s'appelle David. Bon, visiblement, il en a fait un truc pas terrible, mais bon.
Mais donc, c'est la démarche me semble la plus...
Aujourd'hui, ce que vous préférez, c'est le travail en studio ou c'est d'aller confronter la scène, de vous retrouver sur scène avec vos morceaux?
Je pense que c'est clairement la scène. Je pense qu'on est un groupe de scène, en fait. Après, j'aime bien ce laboratoire aussi d'un album parce que c'est une histoire et on rencontre des gens. Et le dernier album, travaillé avec Pierre Jaconelli, c'était... Qu'est-ce que j'ai appris de choses à côté de cet homme, quoi. Il y a ça, et puis il y a une histoire qui se construit entre les gens, entre les autres auteurs, si éventuellement ça arrive qu'on collabore, ou les gens qui participent. Mais nous, on voit tout comme des histoires, j'allais dire amitié, c'est beaucoup dire, mais des histoires humaines, en fait. Et en studio, il y a aussi ça. Et des relations qui des fois peuvent se tisser plus que sur scène, parce que sur scène on croise des gens très peu de temps, en fait on croise beaucoup de monde mais on tisse peu de liens forts, à part avec l'équipe de tournée, les musiciens, parce qu'on croise des gens très peu de temps. Le studio permet de voir les gens plus longtemps, mais c'est plus laborieux pour moi.
Mais c'est vrai que la scène même dans les moments difficiles où des fois on a moins envie, où on y croit moins, dès qu'à partir du moment où on a le pied sur scène, ça prend son sens. Donc c'est vraiment l'endroit sur Terre, pas tout le temps, mais quand j'y arrive, où je me sens au bon endroit, au bon moment, où j'ai l'impression d'être pile dans l'instant présent, c'est une sensation tellement dingue que j'arrive pas à obtenir avec aucune autre chose ou substance. C'est vraiment là, sur scène, devant les gens, là c'est à 100%, je suis là à 100%.
Alors on arrive à la fin de cet épisode. Je termine généralement cet épisode par quelques petites questions. Si vous gagnez au loto, quelle est votre réaction?
Je fais comme si j'avais pas gagné, je crois.
Ouais, moi.
Mais je suis content d'avoir un petit matelas au calme.
J'ai peut-être acheté une maison avec un studio d'enregistrement dans la cave.
Ah ouais, puis une piscine, puis au bord du lac.
Puis au bord du lac.
Non, en fait, ouais, on aurait de quoi faire.
Y a-t-il un livre, un film ou une chanson qui a changé votre vie?
Il y a tellement.
Changer notre vie, c'est fort, ça.
Bah, moi, peut-être. On va dire un album qui est celui de William Scheller en solitaire, mais qui est plus lié au concert, parce que quand j'ai vu son concert, je devais avoir 10 ans, il était seul à son piano et je me suis vraiment dit, bam, c'est ça que j'aime faire.
Dépressive.
Donc je pense que ça va être jeu. Ouais.
Et du coup, moi, si je dois dire quelque chose, je dirais, je vais faire un télo. Je vais dire René Char parce qu'il a révolutionné quelque chose dans ma conception de l'écriture. Donc si tu dis qu'il a changé votre vie, oui, ça a changé quelque chose dans ma façon de concevoir la poésie.
René Char, disais-je, si je ne m'abuse, si tu connais bien, l'important dans la vie n'est pas c'est pas de laisser des preuves, mais des traces, je crois.
Ah, bah c'est bien, ça colle bien à Xavier, ça. Il garde tout.
Si vous ne faisiez pas ce métier, vous feriez quoi?
Bonne question. Je pense que je serais quand même dans les médias ou l'organisation d'événements ou ce genre de choses-là. Ou avocate.
Avocate?
Ouais.
C'est bien, tu la découvres, Xavier, grâce à moi.
je serais forcément dans ce que j'ai toujours entrepris, c'est l'écriture ou l'histoire, c'est les études que j'ai faites.
Journaliste.
Voilà, peut-être. Non, journaliste, je crois pas.
Quel est votre plus bel échec?
Votre plus bel échec?
C'est dur ces questions. Moi, j'ai pas l'esprit spontané, tu vois. Donc,
tu dois réfléchir.
Vous me ferez un résumé.
Ouais, c'est un mail.
Ça. 15 jours plus tard.
Mais il y en a eu où on se dit ah, mais pourquoi ça a foiré? Puis en fait, c'était très très bien que ça foire. Mais là, comme ça ne saute pas aux yeux.
Quel est votre endroit préféré au monde?
On est nuls.
Mais on a besoin de temps. On a besoin de temps. C'est comme ça. On dit que les Suisses sont lents. Autant prouver ça. moi, j'aime. Je pense quand même en ce moment c'est pas mal la montagne, dès qu'on est justement isolé là dans le chalet.
Là, nos derniers moments de vraie paisibilité avec nos deux dernières années qui étaient vraiment vraiment
intenses.
Je pense que c'était
montagne.
Effectivement le chalet de ma grand-maman.
Il y a un mot américain qui est le motto, qui est en gros la motivation au quotidien ou la devise. Est-ce que vous avez un motto?
On ne lâche rien.
Très bien.
T'es d'accord avec moi?
Très bien.
Est-ce que vous avez un mot préféré?
Ornithorynque. C'est un beau mot quand même. Je n'ai pas réussi à le placer dans une chanson, mais ça viendra.
Ah, pourtant, on a placé des trucs des fois spéciaux déjà. Mais...
Toi, t'as un mot préféré?
J'ai un mot préféré. C'est bonheur et authenticité. Scepticisme.
Bon, merci Alizée, merci Xavier d'avoir participé.
Avec grand plaisir.
Ben, merci à toi.
Pour moi, c'est toujours un vrai bonheur de partager un temps avec vous et là de pouvoir le partager avec toutes les personnes qui nous écoutent.
Bah, toi aussi, merci de prendre le temps et de nous donner du temps aussi parce que souvent, quand on a des moments comme ça d'interview, ça dure 12 minutes, donc tu dis que ce qui est soi-disant important, donc c'est agréable de prendre le temps de parler. Merci beaucoup.
Ouais, c'est 3 pièces entre temps. Donc.
Non, moi je milite pour le temps, donc pour, en tout cas pour pouvoir le prendre, et parce qu'il y a plein de choses à dire et vous êtes des personnages absolument attachants et remarquables et votre musique est superbe. Et justement, donc l'album s'appelle Comme on respire, il est sorti l'année dernière. Je mettrai de toute façon votre. Il y a un site, hein, sur
oui, le... oui, il y a un site, alioz.com. FR ou .ch ou .net ou ce que vous voulez.
Ouais, je le mettrai en lien sous l'épisode aussi. Et puis bah ce second album qui arrivera l'année prochaine, on croise les doigts. Je vous embrasse, je vous remercie.
À bientôt. Ciao.
À très bientôt. Ciao. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais tu peux retrouver tous les épisodes précédents sur Apple Podcast, mon blog sur WordPress, PodCloud ou mon Facebook officiel. Et merci de me laisser un petit commentaire si tu veux bien me soutenir. On se retrouve jeudi dans 15 jours. D'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.